faire ici à la vie comblée, c'est de faire une petite confession, une déclaration de la foi que nous avons dans la parole de Dieu, juste avant de recevoir le message. Parce que la Bible nous enseigne, en fait c'est Jésus qui enseigne, et à plusieurs reprises nous voyons dans les Écritures le principe que ce qu'on dit avec la bouche en croyant du cœur s'accomplit. La Bible dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Donc, si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Jésus dit, tout ce que vous dites à cette montagne, en fait, il a dit en vérité, si quelqu'un dit avec ta bouche à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croire que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, nous voyons encore le principe de croire avec le cœur et de parler avec la bouche, c'est un principe biblique. C'est pourquoi on va faire ceci. Si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre. Sinon, il y a une feuille qu'on vous a donnée à la porte, et avec presque tous les versets de la Bible que nous allons lire ce matin, que nous allons étudier ce matin, on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen! Alléluia! Remercions le Seigneur pour sa parole. Amen! Donc, aujourd'hui, nous allons continuer un message que j'ai commencé la semaine passée concernant comment devenir les vases d'honneur. Et ce que nous avons vu la semaine passée, c'est que Dieu, il en prend pour chacun de nous. Dans la grande maison de Dieu, il y a toujours toutes sortes de personnes. En fait, si vous voulez, regardez, je pense pas que c'est dans vos notes, la première partie, mais on va regarder sur le PowerPoint, la première partie du verset. Pourtant, Dieu lui-même a posé les fondations de son édifice et elle reste inébranlable, portant de la part et d'autre, en guise de sceau, les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. N'est-ce pas bon de savoir que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent? Ça nous montre une chose, c'est pas tout le monde qui appartient à Dieu. C'est pas tout le monde qui appartient à Dieu. Dieu veut que tout le monde lui appartienne. Et Dieu donne l'opportunité, l'occasion et le droit à chaque membre de la race humaine de faire partie de sa grande famille. Mais il faut prendre la décision. Regardons ici. Et qui se détourne du mal, celui qui affirme appartenir au Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent affirmer que vous appartenez à Dieu? Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, il y a aussi de la vaisselle en bois et en terre cuite. Regardons le prochain verset. Les premiers précieux, entourés d'honneur, sont réservés aux grandes occasions. Les autres, peu prisés, sont destinés à l'usage courant et se servent à recueillir les déchets. Donc, on voit un contraste encore. On a des vases dans la maison de Dieu qui sont pris pour les grands événements. Et il y a d'autres vases qui sont peu utilisés. Et vraiment, l'usage, c'est pour recueillir les déchets. Qu'est-ce que nous avons vu la semaine passée? C'est que c'est pas Dieu qui va décider, mais toi, avant la fondation du monde, j'ai décidé que tu serais une poubelle, et toi, j'ai décidé que tu serais un vase d'honneur. Non, Dieu donne à chacun de nous l'occasion et le potentiel de devenir un vase d'honneur. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Regarde, quelqu'un a dit, si tu veux, tu peux. C'est-à-dire que si tu veux devenir un vase d'honneur dans le royaume de Dieu, vous pouvez devenir un vase d'honneur. Et puis, là, on tombe dans le verset qui est même dans vos notes, on peut relire cela. Eh bien, si quelqu'un se garde net de toutes les impuretés dont j'ai parlé, s'il se préserve des influences corruptrices en s'éloignant de tels gens, il sera, quoi? On va le dire encore. Un vase d'honneur destiné à un noble usage. Mais n'est-ce pas intéressant? Destiné à un noble usage utile à son propriétaire, réservé au service du maître, Celui qui se purifie de toutes ses souillures pourra être utilisé pour toutes sortes de bonnes œuvres. Donc c'est ça qu'on voit. Quelle joie, quel honneur de savoir que moi j'ai la capacité de devenir un outil entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Que je peux devenir utile à mon propriétaire, à mon maître. Que quand Dieu a des grands événements, et Dieu veut faire des grandes choses ici sur la planète Terre, et il cherche les hommes et les femmes avec qui il peut travailler, qu'est-ce qu'il va chercher? Il va chercher ceux et celles qui ont pris les décisions nécessaires pour devenir les vases d'honneur. Et qu'est-ce que je sais? C'est que Dieu veut que tout le monde, sans exception, devienne un vase d'honneur. Et vous pouvez, si tu veux, tu peux. Regarde l'autre personne à l'autre côté, dis, si tu veux, tu peux. Mais il faut vraiment vouloir. Il faut vraiment vouloir devenir un vase d'honneur. Donc, on voit cette image de cette vase d'honneur où, comme on a vu, le même mot vase est traduit ailleurs, instrument, comme l'apôtre Paul est appelé un instrument. OK? On voit aussi que le même mot vase est traduit ailleurs corps, parce que c'était un métaphore grec. Les Grecs appelaient le corps un vase parce qu'ils croyaient que l'âme habitait juste temporairement dans le corps. Et c'est vrai, n'est-ce pas? Nous sommes ici sur la planète Terre pour quelques années. En fait, la Bible dit que notre vie est une vapeur qui apparaît pour juste un petit peu de temps et puis ça va disparaître. Mais qu'est-ce que nous allons faire pendant notre séjour sur la terre? Est-ce que nous allons nous laisser remplir de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu? Est-ce que Dieu va pouvoir se servir de nous pour apporter le salut aux nations, pour apporter la guérison à ceux qui souffrent, pour apporter l'espérance à ceux qui sont désespérés? C'est ça que je veux. Et vous? Je veux être un vase d'honneur. Et pour devenir un vase d'honneur, il y a des choses que j'ai besoin de faire. On a vu la semaine passée que qu'est-ce que ça prend et qu'est-ce que Dieu veut, c'est notre, il y a un grand mot biblique qu'on appelle la sanctification. Comment on dit sanctification? Et on a expliqué cela. Être sanctifié, c'est d'être mise à part, réservé pour un seul usage par un seul utilisateur. Et je vais donner un exemple. C'est comme quoi? C'est comme la brosse à dents. Moi, j'ai une brosse à dents qui est sanctifiée. Ce n'est que moi qui m'en sers. Et je l'utilise seulement pour une chose. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pensé à cela en se brossant les dents cette semaine? Moi, j'y pensais parce que cette semaine, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Ma brosse à dents a été désanctifiée parce que j'en ai acheté une nouvelle. Et j'ai dû faire le ménage et je voulais vraiment faire ménage. Je suis un peu maniaque, je veux que la douche soit propre. Donc moi, j'ai utilisé l'ancienne pour laver la douche. Mais jamais plus est-ce que je vais la mettre dans ma bouche. Mais j'ai une nouvelle qui est sanctifiée. Amen. Et c'est la même chose pour nous. Dieu veut que nous soyons sanctifiés, que nous soyons réservés pour lui et lui seul. Pas juste le dimanche, OK? Ça marche pas. Laver la douche, même si c'est juste une fois par semaine, et les autres 6 jours, je me lave les dents avec, ça marche pas. Vous êtes d'accord? Il faut qu'une fois que c'est sanctifié, il faut que ça reste sanctifié. Et c'est ça que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est notre sanctification, qu'on devienne les vases d'honneur pour lui glorifier et pour apporter le salut aux nations. Amen? Donc, et avec cela, il y a une chose qui est dans mon esprit et qui est vraiment fort dans mon cœur depuis quelques semaines. On va lire un autre verset. Parce que il y a un autre sujet qui va de pair avec la sanctification et ça, c'est la puissance de Dieu. Parce que s'il y a une chose dont nous avons besoin dans notre vie personnelle et dans l'Église et dans le monde, nous avons besoin de la puissance de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on fait quand les médecins disent « Désolé, c'est trop tard, on a fait tout notre possible, mais on ne peut plus rien faire. » C'est à ce moment-là qu'on a besoin de la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait quand nous sommes pas bien dans sa peau et nous avons les problèmes émotionnels ou les luttes avec la dépression ou les problèmes dans nos relations entre hommes et femmes ou entre parents et enfants, etc. C'est là où nous avons besoin de la puissance de Dieu en manifestation. Nous avons besoin de cette puissance et le monde a besoin de cette puissance. Le monde aujourd'hui est dans la confusion. Il y en a qui sont vraiment confus. Ils savent plus qu'est-ce qu'il faut croire. Il y a des fausses religions qui se répandent de plus en plus dans notre province. OK? Moi, j'ai regardé, quand j'étais sur le tapis roulant cette semaine au gymnase, j'ai ouvert la télévision, il y avait une entrevue avec des Québécoises qui viennent de se convertir, pas viennent, mais ça fait des années que ces personnes se sont converties. Ils étaient les catholiques, mais maintenant ils sont des musulmans. Et ils parlent de combien de plus en plus il y a des Québécois et des Québécoises qui tournent vers l'islam. Et aujourd'hui, est-ce que vous savez que dans notre province, ils ont passé une loi et à partir de septembre 2008, chaque enfant dans chaque école publique va être obligé. Je pense que ça commence en première année. C'est obligatoire de suivre un cours sur toutes les religions, les grandes religions du monde. Parce que les cours, le catéchèse, tout cela, c'est fini dans les écoles. Et aujourd'hui, à partir de septembre 2008, tous les enfants au Québec vont être obligés d'étudier l'islam, l'hindouisme, le judaïsme, le christianisme aussi. Mais c'est juste un autre isme mélangé avec tous les autres, vous comprenez? Pourquoi est-ce que je parle de tout cela? Parce que dans la société, dans le monde, les gens sont dans la confusion. Pourquoi? Je suis convaincu d'une chose. C'est parce que s'il y a des gens qui se tournent vers d'autres religions, ça prouve qu'ils ont quand même faim et soif de Dieu. Et ils n'ont pas trouvé quelque chose de satisfaisant dans la religion chrétienne. Vous êtes d'accord? Et moi, je suis d'accord que le monde n'a pas besoin de christianisme. Le monde a besoin de Jésus. Le monde n'a pas besoin d'entendre parler de toutes les règles et toutes les traditions des hommes. Le monde a besoin de voir Jésus crucifié, ressuscité et d'expérimenter quoi? Son amour et sa puissance. Et s'il y a une chose, parce que nous avons des amis musulmans, et ce sont des personnes super sympathiques, il y a des gens qui pensent que, écoute, nous ne sommes pas anti quoi que ce soit, nous sommes pour Jésus. Et faites attention, parce que si vous commencez à avoir de la haine pour les autres personnes dans d'autres religions, vous allez avoir de la misère. Dieu aime tout le monde, Dieu respecte tout le monde. Moi, je peux respecter les hindous, je peux respecter les musulmans, mais je suis pas d'accord avec ce qu'ils croient, parce que je crois, et même ces femmes québécoises à la télévision, la personne a demandé, c'était sur l'émission Deux filles le matin ou quelque chose comme ça, que je regarde pas jamais, mais j'ai entendu, ils parlaient de Dieu. Et donc, ils ont posé la question, mais c'est quoi la différence? Parce qu'au commencement, ils commençaient à dire, bon, mais c'est essentiellement la même religion, nous avons les mêmes prophètes et tout cela. Mais ils ont dit, mais c'est quoi la différence? La différence, les femmes ont dit, c'est Jésus. Parce que eux autres, c'est les musulmans qui ont dit, la différence, c'est Jésus. Nous ne croyons pas que Jésus est le Fils de Dieu. Nous croyons qu'il est un prophète. Mais il n'est pas le Fils de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est grave? Oui. Et encore, est-ce qu'on doit détester ces gens? Non. Mais ce dont ils ont besoin, c'est de voir la puissance de Dieu en manifestation. C'est ça qui va les convaincre que Jésus est vivant. Alléluia. Et même, on a eu une conversation il n'y a pas longtemps avec une de nos amies ici à Drummondville, qui est musulman. Et elle dit, mais tu sais, parce qu'on parlait de la guérison. Et elle dit, mais ça, c'est une chose, par exemple, qu'il n'y a aucun prophète dans notre religion qui guérissait. Sauf Jésus. Quelque chose, n'est-ce pas? Donc, regardons ceci. Josué, chapitre 3, verset 1. J'avais à cœur de partager cela. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que Dieu veut balayer la province du Québec avec un grand réveil. Et le fait que les gens tournent vers les autres religions, ça prouve qu'ils ont faim et soif. Et il y a comme une vide spirituelle. Et dès que quelque chose est présenté devant eux, ils vont essayer de remplir le vide avec ça. Mais moi, je suis convaincu que la vérité va les affranchir. Et ça va prendre la puissance de Dieu. Il y a un verset en Josué, chapitre 3, verset 1. Et c'est un verset, en fait, que le Seigneur a parlé à notre Église il y a, quoi donc, 6, 7, 8 mois, je m'en souviens, même c'est France Dion qui avait ça dans son cœur, elle est venue partager ça avec moi et ça a rendu témoignage à mon esprit, donc je suis venu à méditer cela. Mais on va le partager aujourd'hui, en Josué 3, 1. Josué s'est enlevé du bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de la traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'Alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Regardons verset 4. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Mais verset 5, c'est le verset clé aujourd'hui. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous. On dit sanctifiez-vous. Hein, n'oubliez pas la brosse à dents. Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des quoi? Des prodiges au milieu de vous. Et nous avons reçu cette parole. Vraiment, moi, je crois que c'était une parole prophétique même pour notre Église et pour l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui. Que Dieu veut faire des prodiges au milieu de nous. Il veut faire des miracles. Il veut étendre sa main pour faire des guérisons, les signes et les miracles au nom de son Saint-Fils Jésus. Amen. Il veut. Dieu le veut plus que nous. Et souvent, le problème, c'est qu'on veut mendier, « Oh, Seigneur, s'il te plaît, fais des miracles. » Et c'est lui qui attend après nous. Et le message aujourd'hui, c'est « Sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » Donc, on voit l'importance que la sanctification va de pair avec la manifestation des miracles, des signes et des prodiges. Allô? Vous êtes là? Est-ce que ça vous donne le goût d'être sanctifié? Moi, je veux vivre. Moi, je veux pas juste lire les histoires qu'on a vues dans les Actes des apôtres, comment le Seigneur marchait avec eux et travaillait avec eux et confirmait la parole avec les signes, les miracles, les prodiges. Moi, je veux le vivre en 2007. Et j'ai déjà vécu ça. Vous avez vécu ça. Vous avez goûté cela. Mais je suis convaincu que ce n'est qu'un petit avant-goût de qu'est-ce que Dieu veut faire. Il y a une ampleur, il y a une multiplication des signes, des miracles et des prodiges que Dieu veut faire au milieu de nous. Mais avant de le faire, il faut que nous soyons sanctifiés. Alléluia. Mis à part, un seul usage, un seul utilisateur. Pourquoi? C'est quoi le lien entre la sanctification et la manifestation de la puissance de Dieu? Je vais juste vous donner 3 raisons dans une minute. Mais premièrement, je veux que vous voyez une référence dans le Nouveau Testament. Et nous voyons encore les principes. Luc 24, 46. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Donc, est-ce que vous voyez quel grand mandat? Jésus est en train de parler avec un petit groupe d'hommes qui avaient peur parce qu'ils ont vu leur maître Jésus crucifié et enterré. Ils se sont cachés en arrière d'une porte barrée. Et puis finalement, Jésus, après la résurrection, il va apparaître, même sans être obligé de débarrer la porte, il apparaît devant eux. Et la première chose qu'il fait, il va les reprendre pour l'incrédulité. Et ensuite, il va leur donner un grand mandat. Vous êtes témoins de ces choses. Maintenant, c'est à vous d'aller et de prêcher ce message dans toutes les nations. Quel grand mandat! Mettez-vous dans leurs souliers. Eux autres, ils n'avaient pas le Nouveau Testament. Ils ne pouvaient pas lire la fin de l'histoire. Ils ne savaient pas comment ça allait se produire. Ils avaient juste la parole de Jésus. Et combien de vous savez que la parole de Jésus, c'est assez? Mais ils sont là, ils ont ce grand mandat. Mais Jésus a dit quelque chose ici. Verset 49, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez quoi? Revêtus de la puissance d'en haut. » Il dit, « Bon, je vous donne un grand mandat à vous, les onze, c'est à vous d'évangéliser le monde entier. » Mais, osez pas partir, osez pas essayer de faire cela sans être revêtu de la puissance d'en haut. Amen? Est-ce que des gens qui ont entendu parler de T.L. Osborne? T.L. Osborne, c'était un évangéliste, il est encore en vie aujourd'hui, il a quoi, donc il doit avoir 80 quelques années, mais c'est un évangéliste que, à l'âge de, je pense que 18 ou, hein, en bas de 20 ans, lui et son épouse, Daisy, ils avaient un cœur pour aller comme missionnaire en Inde. Donc ils sont allés en Inde et pendant un an, ils ont prêché. Ils ont prêché aux musulmans. Et sans avoir aucun fruit, aucune personne s'est convertie. Il disait, mais écoute, voici qu'est-ce que Dieu dit, nous avons dans son livre saint, sa parole. Et ils ont répondu, mais nous aussi, nous avons notre livre saint, le Coran. Oh, mais regarde, on, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut comparer, on a des pages dorées ou avec onglet ou je ne sais pas, mais ça change pas. Eux autres, ils ont dit, mais nous avons notre livre, vous avez votre livre. Et puis, après un an, ils sont rentrés chez eux, vraiment découragés. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais après quelques mois, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Ils ont été remplis de la puissance d'en haut. Et puis, avec cette puissance, ils sont retournés en Inde. Ils ont commencé à prêcher avec les signes, les miracles, les prodiges qui suivaient. Et des musulmans, par des milliers, se sont convertis. Ils avaient besoin de voir la puissance. Et les gens aujourd'hui ont besoin de voir la puissance aussi. Amen. Et moi, je sais une chose, que Jésus veut confirmer sa parole. Il veut se manifester. Amen. Mais c'est quoi le lien entre la sanctification et la puissance de Dieu? Trois choses, juste brièvement. Premièrement, Dieu veut propager sa réputation. Savez-vous que Dieu, et c'est pas qu'il n'est pas orgueilleux, mais il est Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord que Dieu a raison de vouloir propager sa réputation? Dieu veut que tout le monde sache qu'il est grand, qu'il est redoutable, qu'il est puissant, qu'il est bon, qu'il est amour, qu'il est fidèle, qu'il est pur. Dieu veut que tout le monde sache. Dieu a une bonne réputation, vous êtes d'accord? Et c'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, avant de traverser le Jourdain, soyez sanctifiés, sanctifiez-vous, car demain je ferai des prodiges au milieu de vous. Il a quand même une réputation à propager. Il y a un verset en 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Qu'ils soient obligés de reconnaître eux-mêmes que vous menez une vie correcte. Moi, j'aime cela. Savez-vous que quand Dieu veut se manifester par des signes, des miracles et des prodiges, comment est-ce qu'il va le faire? Il va le faire à travers vous. Comment est-ce qu'il va guérir les malades? Vous allez imposer vos mains aux malades et les malades seront guéris. Mais savez-vous quoi? Il veut que vos mains soient sanctifiées. Il veut que votre vie soit correcte. Parce qu'il ne veut pas que vous fassiez une fausse publicité pour lui non plus. Allô? Est-ce que vous êtes là? Donc, on voit ici, j'aime tellement, afin qu'ils soient obligés de reconnaître en eux-mêmes, même s'ils ne veulent pas, même s'ils aimeraient vous critiquer, vous condamner, vous culpabiliser, ils n'ont rien à dire. Ils sont obligés d'admettre et d'avouer que votre vie est correcte. N'est-ce pas bon? Ainsi, même s'ils vous calomnient et vous traitent de malfaiteurs, lorsqu'ils examineront votre vie de plus près, vos bonnes actions leur ouvriront les yeux et ils finiront par rendre hommage à Dieu le jour où il les visitera. Dieu veut visiter les non-croyants. Dieu veut se manifester pour eux. Et quand il le fait, les non-croyants vont examiner de plus près nos vies. Et malheureusement, qu'est-ce qui arrive souvent dans les églises, que quand les gens examinent notre vie, ils découvrent les choses, ça provoque des scandales. Vous êtes d'accord? Mais qu'est-ce que Dieu veut? Il veut... Moi, je sais que Dieu est tellement bon qu'il va faire tout son possible pour bénir le monde et pour aider les gens et pour se manifester dans la mesure du possible. Mais moi, je suis quand même certain, à 100%, que si le corps de Christ était plus sanctifié, qu'on aurait davantage des miracles, davantage des signes et davantage des prodiges. Souvent, on a ces choses, mais c'est par la grâce de Dieu, n'est-ce pas? Et c'est toujours par la grâce de Dieu. Mais on pourrait créer une atmosphère où Dieu se manifeste davantage. Luc 4, 14, on voit Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retournant en Galilée, et sa quoi? Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Moi, je veux que la renommée de Jésus soit répandue à Drummondville. Donc, en tant que membre de son corps, je veux faire mon possible de propager sa réputation comme il faut. Amen. Matthieu 24, 24, sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs divergentes, des démoniaques, les lunatiques, les paralytiques, et il les guérissait. Vous dites, oh, mais ça c'est Jésus. Avez-vous oublié qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est monté au ciel et quand il a répandu son Saint-Esprit sur les disciples et qu'à Jérusalem, les gens amenaient les malades et quand juste l'ombre de Pierre passait par-dessus que les gens ont été guéris? C'est pas juste Jésus, c'est le même Esprit qui était sur Jésus qui est maintenant sur nous. Amen. Donc, Dieu veut propager sa réputation. Deuxième chose, Dieu veut protéger son peuple. Dieu veut protéger son peuple. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Dieu est saint. Il est trois fois saint. Dieu est pur. Dieu est parfait. Et Dieu est tout puissant. Et le Dieu parfait et sa puissance parfaite peut être dangereux si notre cœur n'est pas en règle avec Dieu. Vous êtes d'accord? Il y a des choses que Dieu veut faire, mais le péché et les ténèbres ne peuvent pas se mélanger. Allô? Voici la bonne nouvelle. Si vous avez des luttes dans votre vie, Dieu est là et sa puissance va vous libérer. Je ne suis pas en train de dire que nous avons besoin de devenir parfaits avant que Dieu se serve de nous. Non, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de se sanctifier et de dire, « Seigneur, je te donne la permission de me transformer, de me laver, de me purifier, de faire tout ce que tu as besoin de faire pour que je sois en vase d'honneur, pour que je sois capable de porter toute la puissance que tu veux manifester en moi et à travers moi. » Parce que si on ne fait pas les choses comme il faut, ça peut quand même être dangereux. Et on oublie cela, et ce n'est pas un message que je prêche souvent. Et si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ce n'est pas une chose... souvent on va prêcher sur la bonté de Dieu, les bénédictions de Dieu, les promesses de Dieu. Qui nous sommes en Christ, qu'est-ce que nous avons en lui, ce que nous pouvons faire en lui. Mais savez-vous quoi? Jésus est vivant. Et il est saint à 100%. Et on ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas vivre dans le désordre et s'attendre à ce que sa puissance va se manifester en nous. Ça ne marche pas comme ça. Dieu est saint. Et il veut quand même protéger son peuple. C'est pourquoi je suis convaincu que souvent, il aimerait faire quelque chose à travers nous, mais il ne peut pas. Parce qu'on n'est pas prêt à porter cette puissance. Amen. Ça peut nous cuire, si vous voulez. On a un exemple ici. Regardons ceci. 2 Samuel, chapitre 6. C'est un exemple de les enfants d'Israël qui ont perdu l'Arche de l'Alliance. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'Arche de l'Alliance, c'était une boîte dorée qui contenait la loi de Dieu et d'autres éléments que Dieu a dit de mettre là-dedans, mais c'était en arrière du voile du tabernacle, et c'est là où la puissance de Dieu, la présence Shekinah de Dieu se manifestait. Ça représente vraiment la gloire et la présence de Dieu. Et quand les enfants d'Israël avaient l'Arche d'Alliance avec eux, ils ont toujours gagné les combats, ils ont toujours eu la victoire, mais à cause de leur désobéissance, un jour, ils ont perdu l'Arche de l'Alliance. Et finalement, justement, la présence de Dieu parmi les païens a provoqué les jugements de Dieu. Et les personnes, ça a causé du trouble, et ils ont dit, on ne veut plus avoir ça, donc ils voulaient le retourner. Et finalement, les enfants d'Israël ont décidé d'aller chercher l'Arche de l'Alliance, mais au lieu de porter l'Arche de l'Alliance comme Dieu a dit, parce que Dieu a dit clairement, pour porter l'Arche de l'Alliance, il faut prendre les poteaux en bois, et il faut que les sacrificateurs, les personnes spécifiques le portent, parce que c'est une chose sainte, ça représente la gloire de Dieu. Mais au lieu de faire cela, ils ont décidé de faire un nouveau char. Je ne sais pas quel genre de char, c'était un Ford ou un Toyota, mais... Donc, vous voyez, ils avaient des autos dans la Bible, non? Mais qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'ils mirent sur un char neuf l'Arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Arjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Lorsqu'il fut arrivé à l'aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l'Arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs ne faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'Arche de Dieu. Qu'est-ce qu'on voit? On voit, et je veux que vous compreniez mon cœur aujourd'hui, je ne veux pas que vous ayez peur de Dieu. Mais je veux que vous ayez une révérence pour Dieu. Dieu a dit, il ne faut pas toucher l'Arche de l'Alliance. Il ne faut jamais toucher à la gloire de Dieu, dans le sens de vouloir en profiter ou de faire les choses à notre manière. Et quand Dieu parle, il faut suivre ses instructions. Vous êtes d'accord? Et donc, ce peuple-là, il était sûrement sincère, mais il a touché quand même la gloire de Dieu. Et il est mort. C'est sérieux. On voit Ananias et Saphir dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 5. Ils ont osé mentir au Saint-Esprit et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés morts, n'est-ce pas? C'était vraiment un message excitant ce matin, n'est-ce pas? Oui, c'est très excitant parce que demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de nous. Si nous faisons qu'est-ce que Dieu nous demande à faire. Et Jésus revient bientôt et il revient pour une église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais une église qui est glorieuse. Alléluia. Alléluia. Dieu est à l'œuvre et c'est son Esprit Saint qui va nous purifier, c'est son Esprit Saint qui va nous sanctifier, mais nous avons un rôle à jouer comme on a vu. Donc regardons ceci. Donc Dieu veut, il y a quelque chose, est-ce que je peux vous montrer une chose? Hein? J'ai quelque chose ici. Vous savez, c'est quoi? C'est un rasoir qui perd de puissance. Et que je ne peux plus utiliser. C'est plus utile à son propriétaire. Savez-vous pourquoi? Parce que quand j'étais en France, j'ai fait une erreur grave. Vous savez que ici, nous avons 110 volts dans le mur. Là-bas, c'est 220. Et ça, je savais. Je savais. En fait, j'avais, et on va parler de ça plus tard, mais parce que j'avais mon ordinateur, ça marche les deux. J'avais mon téléphone, ça marche les deux sans aucun problème. Donc, j'ai pris pour acquis que mon rasoir, ça marche pareil. Mais ça ne marche plus. Pourquoi? Parce que j'avais pas la capacité. Mais un rasoir n'avait pas la capacité de prendre ou de supporter toute cette puissance. Et cette puissance a fini par détruire, pas le rasoir, mais l'adapteur, heureusement. Mais savez-vous quoi? Dieu veut protéger son peuple. Dieu ne veut, il veut pas nous cuire. Donc même si Dieu veut se manifester avec une grande puissance, à quel prix? À quel prix? Amen? Alléluia. Donc, regardons. On va continuer ici. Dieu veut protéger son peuple. Il y a des versets là-dessus, mais regardons, il y a troisième chose. Dieu veut aussi promouvoir son plan. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on soit sanctifié? Parce que quand il va répandre sa puissance sur nous, il veut qu'on utilise sa puissance pour la bonne chose. Et si nous ne sommes pas sanctifiés, on peut être tenté d'abuser de sa puissance, d'abuser de son autorité. Et je suis convaincu que souvent, Dieu, par amour, par miséricorde, par vraiment compassion pour son peuple et pour vraiment protéger son plan, que la puissance de Dieu n'est souvent pas manifestée à cause de cela. Acte 8, nous voyons pourquoi Dieu veut nous revêtir de puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez quoi? Mes témoins, Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, Dieu veut propager sa réputation. Il veut protéger son peuple, et il veut aussi promouvoir son plan. Et c'est pourquoi il dit, sanctifiez-vous, soyez saints. Qu'est-ce que Jésus a dit? Père, je me sanctifie moi-même pour eux. Et j'ai besoin de me sanctifier, de me mettre à part, comme la brosse à dents. Le Seigneur, prends ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai t'appartient. Je veux, Seigneur, que tu te sers de moi. Je veux être un vase d'honneur. On va le dire ensemble, je veux être un vase d'honneur. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir ce vase d'honneur, pour se préparer pour la puissance? Comment expérimenter plus de sa puissance? C'est la question qu'on va poser. Et trois réponses que je vais vous donner aujourd'hui. Et encore, je veux que vous fassiez le lien. Pensez à la puissance dans le naturel, l'électricité, dans le mur, dans une prise de courant, ou encore peut-être une batterie dans une auto. Vous savez que sans une batterie, l'auto ne marche pas. Demande-moi comment je sais. Parce que hier, je suis sorti de maison et je voulais partir l'auto et il n'y avait rien. Et puis, j'ai demandé, ma fille a dit, « Ah, mais c'est vrai, j'ai ouvert la porte et quand j'ai fermé la porte, la lumière restait allumée. » Bon, c'est bon de savoir le lendemain, n'est-ce pas? Donc là, ça ne marche pas sans une batterie, sans la puissance, le char ne bouge pas. Mais pensez à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que chrétiens, de faire en sorte que la puissance de Dieu puisse se manifester à nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se sanctifier, pour que la puissance de Dieu se manifeste davantage? Trois choses. Numéro un, augmentez votre capacité de porter la puissance. Augmentez votre capacité de porter la puissance. Jean 16, 12, Jésus a dit ceci, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les quoi? Les porter maintenant. » Il y a des choses que Jésus voulait confier à ses disciples, mais il a dit, « Vous n'êtes pas dans la capacité de les porter. » C'est comme, on sait qu'on peut avoir une personne qui est destinée à devenir mère. Mon épouse a eu 5 enfants. Mais on ne peut pas avoir 5 enfants à 5 ans. Il faut avoir une maturité afin de pouvoir porter un enfant, de donner naissance au plan de Dieu pour sa vie. Et il faut avoir une certaine capacité de pouvoir, afin de pouvoir porter la puissance de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus est en train de dire? C'est que je veux vous confier des choses, mais vous n'êtes pas encore assez grand, assez mature, assez prêt. Vous n'avez pas encore la capacité. Amen? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui utilisent les ordinateurs? Hein, à l'occasion? Moi, je m'en souviens. En fait, c'était Anthony. Il a voulu installer un logiciel pour moi dans mon ordinateur. Je voulais avoir Windows XP au lieu de Windows 98. Donc, il a commencé à installer sur le programme, le logiciel. Et puis, il a installé une bonne partie. Mais finalement, il n'était pas capable de terminer le travail. Pourquoi? Parce que mon ordinateur manquait la capacité. J'avais pas assez, je ne sais pas si c'était de mémoire vive ou de disque dur, mais je pense que c'est de mémoire vive, j'en avais pas assez de mémoire. La capacité était restreinte et c'est pourquoi j'avais besoin juste de fonctionner avec une partie du potentiel. Combien de fois dans le corps de Christ est-ce que nous opérons avec juste une partie du programme de Dieu? Dieu a tout un programme pour nous. Il y a des choses qu'il a planifiées pour nous. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? les plans et les projets que Dieu a formés sur vous avant la fondation du monde sont au-delà de votre capacité à comprendre ou à saisir. Et trop souvent, on pense que, oh, mais Dieu peut pas se servir de moi. Dieu utilise des choses folles pour confondre la sagesse des hommes. Et qu'est-ce que Dieu veut? Il veut qu'on prenne le temps d'augmenter notre capacité spirituelle afin qu'il puisse effectuer le téléchargement. Il y a des choses en haut que Dieu veut nous télécharger, mais on parle des gros fichiers énormes. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir envoyer un fichier et dire, bon, c'est bloqué parce que c'est trop volumineux? Vous n'avez pas la capacité, pas assez de mémoire, ou vous avez un fichier que vous voulez mettre sur, dans le temps, une disquette 3,5 et ça rentre pas. Donc, ça prend pas une disquette 3,5, ça prend un CD. Mais même des fois, les CD sont pas assez, donc ça prend une clé USB ou quelque chose avec une plus grande capacité. Sinon, tout le dossier rentre pas. Et savez-vous, c'est la même chose pour vous. Il y a des choses que Dieu veut faire, qu'il ne peut pas faire avant que vous grandissiez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardons ceci. Augmentez votre capacité. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 3, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Nous devons, à votre sujet, faire rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Tout le monde dit progrès. Et que l'amour de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente. Tout le monde dit augmente. Augmente de plus en plus. Moi, je peux grandir dans ma foi, je peux grandir dans mon amour, mon esprit peut devenir plus mature. Je peux porter plus de choses aujourd'hui qu'il y a 30 ans quand j'ai donné ma vie à Jésus. Il y a des choses que j'étais pas capable de comprendre ou de saisir, mais maintenant, c'est là, c'est téléchargé. Le téléchargement est fait. Amen. Mais je sais une chose, qu'il y a encore plus que Dieu veut me confier, que même moi, j'ai encore besoin de grandir davantage si je vais être capable de recevoir tout son plan et tout le programme de Dieu. Amen. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour grandir? Plusieurs choses. Vous savez que la parole de Dieu, c'est notre nourriture spirituelle, mais aussi, en Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Savez-vous que plus vous êtes dans la parole, plus vous allez grandir, plus vous obéissez à la parole, plus vous allez grandir, et plus vous exercez votre esprit, votre fort intérieur, vous êtes un esprit, vous avez une âme, vous vivez dans un corps, vous avez besoin d'exercer votre esprit. Paul a dit, si je prie en langue, mon esprit est en prière, mon intelligence demeure stérile. Donc, c'est-à-dire que je m'édifie moi-même, je me bâtis comme je vais augmenter ma capacité spirituelle, plus je prie dans l'esprit. Amen. Alléluia. Moi, j'ai besoin de grandir. Et vous? Alléluia. Regarde, quelqu'un a dit, je veux grandir. Savez-vous, ça fait partie de votre sanctification. Si je dis, Seigneur, je me mets à part, en seul usage, en seul utilisateur, et je vais faire tout ce qui est nécessaire pour faire des exercices spirituels pour grandir, lorsque je vais augmenter ma capacité de recevoir de toi. Amen. Et regardez bien, c'est pas qu'est-ce qui est à l'extérieur qui fait une différence. Je vais le prouver. Regarde, ça c'est pour le rasoir. Et ça c'est pour mon téléphone. Lequel est le plus grand aux yeux? Celui-là est plus grand, mais sa capacité est moins. Donc des fois on regarde une personne, on voit à l'extérieur, il semble avoir un grand ministère, il prêche en avant, ou il joue la musique, ou il chante, et on voit cela, on dit, ouh, ça c'est vraiment quelqu'un qui doit avoir une grande capacité spirituelle, pas forcément, peut-être il a une grande capacité naturelle, peut-être il a un grand talent naturel. Il y en a qui sont capables de faire des choses dans le naturel, et on pense, waouh, c'est vraiment un homme de Dieu, pas forcément. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur. Et si j'aurais lu, c'est écrit, 120 volts. Et c'est 100 à 240 volts. Ça a l'air plus petit, mais c'est plus puissant. Amen. Parenthèse, lisez les instructions. Alléluia. Bon, ça c'est la première chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on va faire pour donner place à la puissance de Dieu? Éviter la corrosion du monde. Encore, pensez à une batterie. Ça vous est arrivé d'avoir une batterie que peut-être dans une auto ou dans un appareil ou une lampe à poche ou quelque chose, et tout d'un coup, ça ne marche plus. Ou des fois, même, vous allez mettre une nouvelle batterie là-dedans et ça ne marche toujours plus. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Puis, tu regardes de plus près. Tu examines de plus près l'appareil et tu vois que les contacts sont sales. Il y a une corrosion qui s'est faite. Et à cause de cela, la puissance ne peut pas couler ou passer. Amen? Savez-vous que vous pouvez des fois mettre la parole de Dieu dans votre cœur, vous pouvez avoir des bonnes prédications, vous pouvez essayer de prier, mais des fois, il y a des choses dans notre vie qui sont corrompues ou sales et nous avons besoin de demander au Saint-Esprit, Seigneur, aide-nous. Je me repens. Par ta parole et par ton esprit, je vais faire le lavage nécessaire. Je ne parle pas de faire des choses dans la chair, mais avec l'aide de l'esprit. Par l'esprit, on fait mourir les œuvres de la chair. OK? Mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire. S'il y a quelque chose qui n'est pas correct, s'il y a une corrosion, une corruption dans mon être, j'ai besoin de faire le ménage, n'est-ce pas? Pour que la puissance de Dieu puisse couler. J'ai juste un exemple en Pierre chapitre 3. Messieurs, c'est vraiment bon pour vous, hein? En Pierre chapitre 3, verset 7, il dit que nous devrions vivre avec nos épouses avec la compréhension, je paraphrase. Comme vivant avec un sexe plus faible. Juste un instant. Le mot sexe est exactement le même mot qu'on trouve dans notre texte clé, les vases d'honneur, le mot vase. Donc, dans le fond, littéralement, ce verset dit, vous vivez comme avec un vase plus faible. C'est une personne qui est aussi forte que toi spirituellement, peut-être encore plus fort, mais juste dans d'autres domaines, plus faibles, plus précieux, qui a besoin d'être bien soigné. Mais la Bible dit que si nous ne faisons pas cela, que ça peut faire obstacle à nos prières. C'est-à-dire qu'on peut prier la bonne chose. On peut prier une prière selon la volonté de Dieu. Mais si ma vie n'est pas en ordre avec mon épouse, si j'ai de la rancune dans mon cœur, ou si j'ai du non-pardon dans mon âme, si je n'ai pas vraiment réglé les choses, ça va faire un blocage. C'est comme une corruption, une corrosion sur les contacts et le courant ne passe pas. Est-ce que vous êtes là? Wow! Messieurs, vous êtes vraiment contents que j'ai prêché ça, n'est-ce pas? Amen. Mesdames, soyez sages. Hein? Soyez sages. Ne dites pas, est-ce que tu as entendu qu'est-ce que le pasteur a dit aujourd'hui? Parce que si vous agissez de même, j'ai une parole pour vous aussi, mesdames. Malheureusement, je n'ai pas le temps de partager. Vous savez, la Bible dit dans Éphésiens 5 que les femmes sont supposées d'avoir même de la révérence pour leur mari. Oh! Messieurs, faites pas l'erreur de dire, as-tu entendu qu'est-ce que le pasteur a dit aujourd'hui? Oui, c'est ça. Tout le monde dit, Dieu me parle aujourd'hui. C'est trop facile de dire, oh, c'est de valeur que telle personne n'était pas là. Il avait vraiment besoin de ce message aujourd'hui. Je vais lui acheter la cassette, le CD ou, bon. Alors, comment est-ce qu'on peut enlever la corrosion, la corruption du monde? Si vous n'étiez pas là mercredi soir, je vous encourage à procurer le CD ou quelque chose du message mercredi soir, parce qu'on a pris toute une heure de parler de comment la parole de Dieu peut nous sanctifier. Qu'est-ce que la parole de Dieu fait dans notre vie pour nous sanctifier, pour nous rendre purs? J'ai pas le temps de le répéter, mais qu'est-ce qu'on voit ici dans ces versets? 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, c'est-à-dire, ou sanctifiez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Puis il dit ici en Jean 17, 15, Jésus qui parle. Est-ce que vous croyez que Jésus dit toujours la vérité? Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta quoi? Ta parole est la vérité. Comme j'ai dit mercredi soir, Dieu ne veut pas. La solution n'est pas d'aller se raser la tête, acheter une robe et des sandales et se cacher dans le monastère quelque part. C'est pas ça la solution. Si vous avez des luttes avec le péché, la solution, c'est pas d'être enlevé du monde, mais c'est d'être préservé du mal. C'est comme je dis, c'est l'hiver et bientôt, on va avoir les températures encore plus froides, n'est-ce pas? Il faut pas y parler, hein? Mais quand il va faire -35 dehors, ou comme la nuit quand mon troisième fils est venu au monde, il faisait -60 avec le facteur de vent, je m'en souviens. -60, c'est quelque chose, mais heureusement, à l'intérieur de l'hôpital, il faisait pas -60. Amen? Pourquoi? Parce que l'hôpital est isolé. C'est dans le froid, mais le froid n'est pas dans l'hôpital. Votre maison est dans le froid n'est pas dans la maison. Vous êtes dans le monde, mais le monde n'est pas en vous. Il faut avoir un isolant. La laine minérale ou je ne sais pas quoi, le styrofoam ou quelque chose. Mais spirituellement, qu'est-ce que ça prend? C'est l'eau de la parole de Dieu qui devient votre isolant. Et plus vous êtes recouvert et rempli de la parole de Dieu, plus vous êtes isolé et le monde ne peut pas vous entrer en vous. N'est-ce pas bon? Éphésiens chapitre 5, on le voit, verset 26, « Afin de l'amener à une vie pure et sainte, c'est pour cela qu'il a mis à part, consacré, purifié, lavé à grands eaux en lui donnant, quoi? Sa parole. » Alléluia. Donc, c'est encore, c'est pas juste une question, je lis en verset 5 secondes le matin, mais on vit avec la parole dans notre cœur. Comment un jeune homme peut-il garder son sentier pur en le gardant selon sa parole? On se promène à tous les jours avec notre douche spirituelle, n'est-ce pas? On prend la douche et on reste dans la douche toute la journée. Ça fait du bien prendre une douche, n'est-ce pas? C'est invigorant, on est propre, on est plein d'énergie, on a toujours des bonnes idées dans la douche, n'est-ce pas? J'étais avec un pasteur l'autre jour, il a dit, moi, je vais chercher un magasin qui vendait des choses pour les plongeurs sous-marins. Parce qu'il a dit, j'ai besoin d'une tablette que je peux écrire dans la douche, parce que j'ai toujours les meilleures idées dans la douche, hein. C'est vrai, c'est génial, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Mais savez-vous quoi? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis convaincu que spirituellement, c'est la même chose. On va avoir les meilleures inspirations, les meilleures révélations dans la douche de la parole de Dieu. Donc, amène-la avec nous. Et je ne suis pas forcément en train de dire que, pas physiquement, là. Je ne dis pas que vous arrivez au travail et vous avez toujours, vous êtes en train de travailler et lire la Bible en même temps, vous allez vous couper un doigt ou quelque chose, hein? Bon, vous prenez le temps de méditer la parole jour et nuit, mais vous mettez la parole dans votre cœur et vous êtes capable d'y penser et de vivre la parole de Dieu, même si le livre est fermé, la parole est toujours en action. Alléluia. Donc, ça c'est ça. Enlever la corrosion du monde. Puis numéro 3, finalement, on va terminer avec ceci. Maintenez votre connexion ou la connexion avec la source. Vous savez que c'est bien beau d'avoir les appareils électroniques, mais si c'est débranché, ça ne marche plus. Ou dans quelques cas, comme celui-là, je peux le brancher pendant quelques heures et en temps normal, ça va garder une certaine énergie pour un certain temps. Mais tu entends ça? Ça, c'est vraiment pas fort. Trop de chrétiens sont comme ça. Ils ont juste assez d'énergie pour énergie d'aller à l'église ou juste assez de matin pour dire. C'est quoi le problème? On a besoin d'être branché. Amen. Regardons. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs, pourquoi? À cause de la parole. Je vais le dire encore. Vous n'êtes pas purs parce que vous êtes plus fins que les autres. Allô, monsieur parisien? Allô, monsieur religieux? Vous n'êtes pas purs parce que vous êtes quelque chose et les autres sont les bons à rien. Vous êtes purs à cause de la parole. Si vous êtes purs, c'est parce que vous avez pris une décision de vous mettre sous la douche de la parole. Et c'est sa puissance qui vous a purifié. Amen. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais qu'est-ce qu'il dit? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure pas, quoi? Attaché au cep. Le rasoir ne peut pas faire sa job à moins d'être branché. Amen. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez, quoi? Rien faire. Sans Jésus, je suis fait. Sans Jésus, j'ai aucune espérance. C'est par la grâce que je suis sauvé, c'est par la grâce que je reste debout. C'est par la grâce que j'ai été lavé, sanctifié, justifié, et c'est par la grâce que je vais continuer à me sanctifier. C'est par sa grâce, par son aide que je vais continuer. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit rester branché. Comment? Encore, on demeure dans la parole, mais on demeure aussi dans l'esprit. Alléluia. On devrait s'entraider là-dedans. Juste dernièrement, depuis les dernières quelques semaines, Tania et moi, on a eu des occasions de s'encourager là-dedans. C'est bon. Parce que des fois, on passe par des moments difficiles. Des fois, il y a des défis dans la vie. Est-ce que vous savez? Et qu'est-ce que notre encouragement, c'est bon? On va rester dans l'esprit aujourd'hui. Nous allons rester dans l'esprit aujourd'hui. Nous allons rester branchés à la source aujourd'hui. Galates chapitre 5, verset 16 dit quelque chose. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a les désirs qui sont le contraire de ce que l'esprit veut. Même si vous êtes chrétien depuis des années, vous aurez toujours la chair à crucifier. Et si vous ne crucifiez pas la chair va vous crucifier. Allô? C'est vrai, hein? Donc, on ne peut pas prendre un break dans ce sens-là. À tous les jours, on dit au vieil homme, remonte sur la croix. En fait, souvent, il est résistant, hein? Donc, par force, avec violence si nécessaire, je parle d'esprit, on a besoin de le clouer à la croix. Dit non, tu vas rester là. Parce que si vous ne crucifiez pas la chair va vous crucifier. Mais comment est-ce qu'on le fait? On reste branché. C'est comme le monsieur qui a acheté une nouvelle scie. À chaîne. Et il avait des centaines d'arbres à couper. Mais il arrive au magasin avec la scie le lendemain, après l'avoir acheté. Il dit, monsieur, problème, la scie que vous m'avez vendue, vous avez dit que je serais capable d'aller 10 000 fois plus vite avec ça qu'avec la hache ordinaire que j'utilisais. Et puis, mais ça ne marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. Ça m'a pris 6 heures juste pour couper une arbre, un arbre avec cette scie. Et puis il a dit, c'est ça, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est flambant neuf, je comprends pas le problème. Donc le propriétaire du magasin, il prend la scie, et puis il tire sur le corps. Et le monsieur qui l'a acheté, il fait, oh, c'est quoi ça? Ben bon, combien de chrétiens, là, quand je parle de crucifier la chair, je parle pas de la crucifier avec sa propre force. Hein? Essayer de couper un arbre avec une scie à chaîne qui n'est pas partie, ça marche pas bien, vous êtes d'accord? Mais combien de fois est-ce que nous essayons de crucifier la chair? Donc, je vais pas le faire. Quand mon épouse arrive, je vais être gentil. Elle arrive. Vous riez parce que vous avez entendu parler de ça dans un pays lointain. C'est ça? Il était une fois. Vous n'avez jamais vécu cela, je sais. Et des fois, on dit, bon, j'ai besoin d'être sage, j'ai besoin de ne pas faire ça. Et on essaie de couper avec le péché. Ça marche pas. Il faut partir là-ci. Il faut être branché. Imaginez si j'aurais essayé de me raser avec ça aujourd'hui. Soit ça m'aurait fait vraiment mal, ou... C'est ça. Les gens auraient dit, bon, il s'est levé tard ce matin. Non, je me suis levé très tôt ce matin. Mais regardons, c'est la même chose. C'est par l'Esprit, tout le monde est par l'Esprit, que nous faisons mourir les œuvres de la chair. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Romains 8, 13, on va terminer avec ce verset-là. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tout le monde dit par l'Esprit, vous faites. On va dire par l'Esprit, l'autre main, vous faites. Par l'Esprit, vous faites. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que si nous voulons nous sanctifier, pour que la puissance de Dieu puisse couler en nous, ça va être par l'Esprit qu'on se sanctifie. Mais j'ai quelque chose à faire. Par l'Esprit, je fais mourir. On va le dire encore. Par l'Esprit, je fais. Vous voyez la collaboration? La coopération? Il faut quand même tirer sur la corde. Mais juste espérant une fois. On a déjà eu l'expérience de... Non. Mais laisse-moi vous dire, avec le Seigneur, ça marche. Si par l'Esprit, je fais qu'est-ce que Dieu m'a demandé de faire, je vais vivre, je vais être sanctifié, je vais être un vaisseau, un vase d'honneur que Dieu va remplir de sa puissance, de sa personne et de son Esprit. Amen. On va se lever debout et nous allons prier. Est-ce que vous avez appris quelque chose ce matin? Maintenant, je vous lance le défi. Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous opérer à votre pleine capacité? Ou est-ce que vous voulez? Trois choses. Augmentez votre capacité de porter la puissance. Évitez la corrosion du monde et maintenez votre connexion avec la source. Je ne veux pas juste le dire ce matin, je veux le faire. Et c'est ça, je suis personnellement dans un cheminement, je suis en train de vivre depuis un certain temps un réveil personnel et c'est bon. Mais je veux que vous viviez ce réveil avec moi. Amen. Je veux vous inviter. Parce que Dieu est tellement bon, il est tellement fidèle, il veut faire tellement de grandes choses en nous et à travers nous et au milieu de nous. Mais, on va prier dans une minute, mais juste avant, j'ai fait un engagement. j'ai pris un engagement devant le Seigneur et devant vous, qu'à chaque dimanche, sans exception, je donnerai l'occasion aux gens de donner leur vie à Jésus. Si vous êtes là ce matin, vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus. Vous dites, mais je crois en Jésus. C'est bon. La Bible dit que même Satan et les démons, ils croient que Dieu existe et que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. C'est pas assez de croire qu'il existe. C'est pas assez d'aller à l'église. C'est pas assez juste de lire la Bible ou même de prier. La Bible dit que si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il faut croire que Jésus est le Fils de Dieu, mais il faut aussi l'accepter comme ton propre Seigneur et Maître. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, un Seigneur c'est un maître, un patron, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Donc j'ai une bonne nouvelle. Je vous donne l'occasion aujourd'hui de donner votre cœur à Jésus. Soyez honnête avec vous, avec Dieu. Si vous sortez de la bâtisse aujourd'hui et votre cœur arrête de battre, avez-vous l'assurance à 100% que vous irez directement au ciel? Sinon, je vous donne l'occasion aujourd'hui de recevoir le don gratuit de Dieu. Jésus a déjà versé son sang, il est déjà mort. Et Jésus a dit une autre chose que je vais mentionner. C'est moi, pas moi, mais Jésus-Christ a dit, si quelqu'un me confesse devant les hommes, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Donc aujourd'hui, le Seigneur vous invite à donner votre cœur à Jésus et dire, oui, je veux que Jésus soit le maître de ma vie. Donc s'il y a quelqu'un ici qui veut le faire, on va faire une prière ensemble. Je vais compter à trois, je vais taper ma main et quand je t'arrête, juste lever la main haut dans l'air si tu veux donner ta vie à Jésus ce matin. Si tu veux passer de la mort spirituelle à la vie et être sûr et certain, sans aucun doute, que vous avez reçu la vie éternelle. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus aujourd'hui? Un, deux, trois. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Juste lever la main. Il y a deux personnes. Amen. N'est-ce pas bon? Donc, venez ici en avant. On va prier pour vous. Deux personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Je suis content pour toi. Encore ton nom, c'est?
Olivier.
Olivier et... arrive, OK. On va prier avec toi. Et savez-vous, ça, qu'est-ce qu'ils font là? Ça prend du courage. Mais le fait que vous n'avez pas honte de Jésus, il n'aura pas honte de vous non plus. Donc, j'aimerais juste vous inviter, si vous voulez tourner, on va prier cette prière. Je vais inviter tout le monde à prier cette prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui devrait venir se rejoindre à eux? Juste venez vite, vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? On va faire une prière ensemble. Et j'invite tout le monde à faire cette prière. Donc, priez avec sincérité. Père Céleste, aujourd'hui, je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur, mon Maître. À partir d'aujourd'hui, je vais te servir. Merci que mes péchés sont effacés par ton sang. Tu es mort à ma place, Jésus. Et tu es ressuscité. Et je le crois de tout mon cœur. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, c'est un nouveau départ, une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour eux? Je suis content. Nous avons un cadeau qu'on veut vous offrir.